E-Radio, l'œil sur l'Europe. Joséphine Staron.
Bonjour Joséphine Staron.
Bonjour.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, les discussions autour de la sécurité et de la défense du continent européen sont quotidiennes. La question du réarmement des Européens revient sans cesse sur le devant de la table, tout comme celle de l'industrie de défense, de l'OTAN bien sûr, et des budgets de défense des États. Est-ce qu'on peut dire qu'on est à un tournant de l'histoire européenne aujourd'hui en matière de défense ?
Oui, c'est certain. En revanche, ce qu'on peut pas dire encore, c'est si ce tournant sera réussi ou non. Il y a de nombreux paramètres à prendre en compte, des facteurs qui sont aussi bien politiques que culturels ou financiers, puis aussi la conjoncture. Pour l'instant, on peut dire que le contexte est favorable, si on peut utiliser cette expression en temps de guerre, favorable à des avancées majeures dans le domaine de la défense et de la sécurité, mais on n'est jamais à l'abri d'un revirement qui remettrait à plus tard ces questions, comme ça a d'ailleurs souvent été le cas dans l'histoire de la construction européenne.
Donc il ne faut pas se réjouir trop vite et s'attendre à ce qu'une véritable Europe de la défense voit le jour.
Je pense qu'il faut prendre la construction européenne pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une construction toujours en cours. Donc forcément, il y a des avancées, parfois des reculs et souvent des situations de statu quo. Mais ce que l'histoire des 70 dernières années nous a appris, c'est que lorsqu'elle est dos au mur, l'UE et ses États savent mobiliser leurs atouts pour s'en sortir. Les réponses apportées aux crises, elles peuvent être minimales pour limiter les dégâts, comme ça a été le cas pour la crise migratoire en 2015, ou bien maximales, comme on l'a vu pendant la crise sanitaire avec une remise en cause totale de certains des principes fondateurs de l'UE. Donc il faut être optimiste sur le sort de la défense européenne, mais sans naïveté.
Sur quoi a-t-on pu être naïf dernièrement ?
Alors, par exemple, lorsque la boussole stratégique a été adoptée en mars 2022, c'est-à-dire un mois après le début de la guerre en Ukraine, on a pu s'en féliciter en disant que c'était une avancée majeure. Un an après, on constate qu'il n'y a pas vraiment eu de suite ou de traduction concrète et que les flous qui subsistaient dans le texte, notamment ceux qui concernent les moyens à mutualiser dans le cadre d'un projet de défense, ces flous n'ont pas été éclaircis. Autre exemple, le projet SCAF, le système de combat aérien du futur à horizon 2040, qui est porté par la France, l'Allemagne et l'Espagne. Au départ, on se disait que ça allait révolutionner l'industrie européenne de défense. Et puis, on a vite vu les difficultés dans la mise en œuvre, aussi bien du côté des industriels eux-mêmes, qui étaient réticents à partager leur technologie, que du côté des politiques. Alors aujourd'hui, le projet il est relancé et il a toutes les chances de voir le jour, mais dans le même temps, au vu du contexte actuel et des impératifs, les pays européens n'attendront pas la commercialisation du SCAF et continuent de signer des contrats pour l'achat d'avions américains.
En parlant d'avions de combat européens, lors du sommet franco-britannique la semaine dernière, le président Emmanuel Macron et le premier ministre Rishi Sunak ont annoncé un projet similaire.
Oui, mais la coopération franco-britannique en matière de défense, elle est ancienne. Ces dernières années, avec le Brexit, les relations s'étaient tendues, mais avec le départ de Boris Johnson, de nouvelles perspectives se sont ouvertes. Avec les Britanniques, on a déjà développé un missile anti-navire commun, le Sea Venom, et on continue d'avancer sur un nouveau projet de missile anti-navire et de croisière. Le projet d'avion commun, lui, il date d'avant le SCAF et il avait été abandonné au profit d'une coopération avec l'Allemagne et l'Espagne à cause du Brexit. Donc les Français font le choix de miser à nouveau sur la coopération avec le Royaume-Uni dans un contexte où, on le voit, les relations avec Berlin restent tendues et surtout où les revirements de position de la part des Allemands sont de l'ordre du possible.
Est-ce que toutes ces initiatives s'inscrivent dans une réelle dynamique de relance de l'industrie européenne de défense ?
Oui, c'est certain. La guerre en Ukraine, elle a révélé le peu d'autonomie stratégique des Européens en matière d'armement, que ce soit d'un point de vue des stocks existants ou des potentialités de production. La question des munitions, notamment, s'est posée. Comment se fait-il que notre production intra-européenne ait tant diminué et surtout qu'on ne soit pas aujourd'hui capable d'accélérer nos processus de production ? Alors, il y a de nombreuses raisons qui l'expliquent. Mais la première, c'est l'absence de volonté politique et de vision stratégique de ces dernières décennies. On en revient au sujet de la naïveté. Contrairement à d'autres régions du monde, les Européens n'ont pas cru dans le retour des puissances hégémoniques et de la violence d'État.
Est-ce que l'augmentation des budgets de défense annoncée par une majorité d'États membres peut être considérée comme une bonne nouvelle pour l'autonomie stratégique européenne ?
Oui, mais il faut encore savoir comment ils vont être utilisés, ces budgets. Pour l'instant, il n'y a pas de stratégie européenne commune en matière de défense. Donc, tout est permis pour les États et on risque d'avoir non pas des modèles de défense complémentaires et interopérables, mais plutôt une juxtaposition de modèles qu'on ne saura pas vraiment faire fonctionner en synergie. Mais on peut quand même saluer des initiatives récentes, notamment la proposition de la Commission européenne d'achat commun d'armement pour mutualiser les coûts et les équipements. C'est un pas de plus vers la coopération et la solidarité qui aujourd'hui sont plus vitales que jamais pour le continent européen.
Merci pour cette analyse, Joséphine Staron. On vous retrouve la semaine prochaine.
Merci.